Courte méditation sur la gloire morale du Seigneur Jésus-Christ par J.G. Bellet.
Troisième enregistrement.
Nous voyons des gloires et des humilités dans la personne du Seigneur. Celui qui était assis sur le puits de Sichar est le même que celui qui est monté au-dessus de tous les cieux. Celui qui est monté est le même que celui qui est descendu. La gloire souveraine et l'humble condescendance se trouvent réunies en Jésus. Il a une place à la droite de Dieu, et pourtant il se baisse pour laver les pieds des saints ici-bas. Il ne perd rien de sa grandeur, quoiqu'il s'adapte à notre misère. Il ne manque de rien de ce qui peut nous servir, bien qu'il soit glorieux, sans tache et parfait en lui-même. L'égoïsme se lasse de l'indiscrétion et de l'importunité, comme nous dit le passage,
bien qu'il ne se lève pas et ne lui en donne pas parce qu'il est son ami, pourtant à cause de son importunité, il se lèvera et lui en donnera autant qu'il en a besoin.
Luc 11, verset 8. Il en est autrement de Dieu ou de l'amour, car le Dieu du chapitre 7 d'Ésaïe, versets 10 à 16, est le contraire de l'homme du chapitre 11 de Luc. Ésaïe 7, versets 10 à 16.
Et l'Éternel parla encore à Achaz, disant, « Demande pour toi un signe de la part de l'Éternel ton Dieu. Demande-le dans les lieux bas ou dans les hauteurs d'en haut. » Et Achaz dit, « Je ne le demanderai pas. Et je ne tenterai pas l'Éternel. » Et il dit, « Écoutez donc, maison de David, est-ce peu de chose pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez aussi la patience de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici, la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, et appellera son nom Emmanuel. » Il mangera du caillé et du miel pour savoir rejeter le mal et choisir le bien. Car avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays des deux rois duquel tu as peur sera abandonné.
C'est l'incrédulité qui ne voulait pas s'adresser à lui qui fatiguait Dieu. Ce n'était pas l'importunité, c'était plutôt le contraire. Et cette gloire et cette excellence divine que nous trouvons chez le Jéhovah de la maison de David réapparaissent chez le Seigneur Jésus-Christ des évangélistes, et dans la différence de ses voix envers la foi faible et la foi forte. Mais quelle petite partie de toute cette gloire nous découvrons! Nous savons de combien de manières nos frères nous troublent et nous éprouvent, comme nous aussi, sans doute, nous le faisons à leur égard. Nous voyons, ou nous croyons voir en eux, quelques mauvaises qualités, et il nous paraît difficile de continuer à soutenir des rapports avec eux. Cependant, la faute en peut être à nous en grande partie, en ce que nous considérons comme une chose à blâmer, ce qui n'est qu'un défaut de conformité ou de jugement avec nous. Mais le Seigneur ne pouvait pas se tromper ainsi, et pourtant il n'était jamais surmonté par le mal. Il surmontait toujours le mal par le bien, le mal qui était dans l'homme par le bien qui était en lui-même. La vanité, un mauvais caractère, l'indifférence envers les autres, la préoccupation de soi-même, l'ignorance après toute la peine qu'il se donnait pour instruire, telles étaient les choses dont il avait constamment à souffrir dans ceux qui l'entouraient. Sa vie au milieu des hommes était, dans son genre et dans sa mesure, un jour d'irritation, comme l'avaient été les 40 années dans le désert. Israël tentait de nouveau l'Éternel, mais faisait aussi de nouveau l'expérience de ce qu'il était. Il est doux de le dire, ils tentèrent le Seigneur, mais en le tentant, ils mirent en évidence ce qu'il était. Il souffrait, mais il usa de patience. Il ne les abandonne jamais. Il les avertissait, les enseignait, les reprenait, les condamnait, mais jamais il ne les abandonna. Au contraire, à la fin de leur course en commun, il est plus près d'eux que jamais. Combien tout cela est parfait et excellent! et encourageant pour nous. Ce que le Seigneur fait pour atteindre la conscience ne refroidit jamais son cœur. Nous ne perdons rien quand il nous reprend. Et celui qui ne nous retire pas son amour quand il agit sur notre conscience est prompt à restaurer nos âmes pour que la conscience, si je peux m'exprimer ainsi, soit bientôt en état de quitter son école et que le cœur retrouve auprès de lui sa première liberté, comme le dit ce cantique bien connu de plusieurs d'entre nous. Mais si quelquefois un nuage vient me dérober ta beauté, ami divin, après l'orage, comme avant, brille ta clarté. Je voudrais faire remarquer en outre que dans les caractères que le Seigneur Jésus est appelé à revêtir pendant le cours de son ministère, que ce soit pour une fois seulement ou en passant, nous voyons partout la même perfection et la même gloire morale que dans le sentier qu'il suit chaque jour. Ainsi, quand il apparaît comme juge au chapitre 24 de Matthieu, ou comme avocat ou intercesseur au chapitre 22 du même évangile. Mais je ne fais que toucher ce sujet si riche. Chacun des pas de Jésus, chacune de ses paroles ou de ses actions, porte un rayon de cette gloire, et le regard de Dieu trouve dans la vie de Jésus plus de sujets de satisfaction que ne lui en eût présenté une éternité d'innocence adamique. Jésus marchait au milieu des ruines morales de l'humanité. Et c'est de cette région de misère qu'il a fait monter vers le trône de Dieu un plus riche sacrifice de bonne odeur qu'Éden et l'Adam d'Éden, s'ils fussent demeurés purs, eussent jamais pu faire ou pu offrir. Le temps n'apportait aucun changement dans le Seigneur. Les mêmes manifestations de sa grâce et de son caractère, avant et après sa résurrection, constatent cette vérité si importante pour nous. Nous savons ce que Christ est dans ce moment, et ce qu'il a été nous dit ce qu'il sera toujours, dans son caractère comme dans sa nature, dans ses relations avec nous aussi bien qu'en lui-même.
Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement.
Hébreux 13, verset 8. Et la mention seule de ce fait est douce pour nous. Parfois les changements peuvent nous affliger, d'autres fois nous les désirons. Tous, de diverses manières, nous montrons ce qu'est cette nature inconstante et variable qui constitue la vie humaine. Non seulement les circonstances, mais les relations, les amitiés, les affections, les caractères subissent continuellement des changements qui nous surprennent et nous attristent. Nous sommes entraînés d'une station de la vie à l'autre, mais il est rare que des affections non refroidies et des principes purs nous accompagnent, qu'il s'agisse de nous-mêmes ou de nos compagnons de route. Tandis que Jésus a été, après sa résurrection, le même Jésus qu'il était avant, bien que les événements récents eussent placé ses disciples à une plus grande distance de lui qu'il n'en exista et n'en pouvait exister jamais entre des compagnons. Les disciples avaient trahi leurs cœurs infidèles en abandonnant leur maître, en fuyant loin de lui à l'heure de sa faiblesse et de son angoisse, pendant que lui, pour eux, avait passé par la mort, et une mort que jamais aucun autre n'eût pu subir sans être anéanti. Les disciples n'étaient toujours que de pauvres, faibles Galiléens. Jésus était glorifié et revêtu de toute puissance dans le ciel et sur la terre. Rien de tout cela, cependant, n'amenait de changement dans le Seigneur, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pouvait le changer. L'amour défie tout, et Jésus revient auprès des siens le même Jésus qu'ils avaient toujours connu. Il coopère à leurs travaux après sa résurrection, et même après son ascension, comme il l'avait fait durant les jours de son ministère et de son séjour parmi eux. Le dernier verset de Marc nous l'apprend. Marc 16, verset 20,
et eux, étant partis, prêchèrent partout, le Seigneur coopérant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient.
Au jour du chapitre 14 de Matthieu, les disciples, dans la nacelle sur la mer, croyaient voir un esprit et ils crièrent de peur. Mais le Seigneur leur fit comprendre que c'était lui-même qui était là auprès d'eux, en grâce aussi bien qu'en puissance divine et souveraine. Pareillement au chapitre 24 de Luc, c'est-à-dire après la résurrection, Jésus prend le rayon de miel et le poisson et mange devant eux, afin qu'avec la même pleine certitude et tranquillité de cœur, ils connussent que c'était lui. Il voulut qu'ils le touchassent et le vissent, leur disant qu'un esprit n'avait ni chair ni eau, comme ils pouvaient s'assurer qu'il avait. Au chapitre 3 de Jean, il amène à la lumière et dans le chemin de la vérité un docteur, lent à croire, qu'il supporte avec toute la patience de la grâce. Il agit de la même manière après sa résurrection envers les deux disciples, sans intelligence et lent de cœur à croire, qui s'en retournaient chez eux à Emmaüs. Luc 24, verset 25.
Et il leur dit, ô gens sans intelligence, et lent de cœur à croire toutes les choses que les prophètes ont dites.
Au chapitre 4 de Marc, il apaise les craintes des siens avant de leur reprocher leur incrédulité. Il dit aux vents et à la mer, « Taisez-vous, faites silence, avant de dire aux disciples,
« Comment n'avez-vous pas de foi ?»
Il fait encore de même au chapitre 21 de Jean, quand il est ressuscité. Il mange avec Pierre dans une pleine et libre communion, avant qu'il interpelle son disciple et qu'il réveille sa conscience par ces mots.
« Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? »
Le Jésus ressuscité qui apparaît à Marie de Magdala, l'évangéliste prend soin de nous le dire, est le même Jésus qui l'avait délivré de 7 démons. Et Marie reconnaît la voix qu'il appelle comme une voix depuis longtemps familière à son oreille. Quelle identité entre le Christ dans l'humiliation et le Christ dans la gloire, entre le Sauveur des pécheurs et le Seigneur du monde à venir. Comme tout nous dit que, en caractère comme en gloire divine et personnelle, celui qui est descendu est le même que celui qui est monté. Jean aussi, près de son Seigneur ressuscité, nous est présenté comme étant le disciple qui, pendant le souper, était penché sur le sein de son maître. Je suis Jésus. Telle est la réponse du Seigneur, du sein de la gloire où il est monté, quand Saul de Tarse demande
« Qui es-tu, Seigneur ?»
Acte 9, verset 5. Tout cela est pour nous d'une application toute personnelle et individuelle. Nous y sommes personnellement intéressés. Pierre, pour lui-même, connaît son maître, le même pour lui avant et après sa résurrection. Jésus, au chapitre 16 de Matthieu, le reprend. Mais peu de jours après, il l'emmène avec lui sur la sainte montagne, en toute liberté de cœur, comme si rien ne s'était passé. Plus tard, le même Pierre est repris de nouveau, Jean 21. Selon son habitude, il s'était préoccupé de ce qui était au-delà de sa mesure.
« Seigneur, et celui-ci »
avait-il dit en se tournant du côté de Jean. Et son maître doit de rechef le remettre à sa place. Que t'importe ? Cependant, et comme à la face de cette réprimande vive et péremptoire, nous retrouvons le moment d'après, Pierre avec Jean, suivant le Seigneur qui va monter au ciel. C'était un Pierre censuré qui autrefois était allé avec Jésus à la sainte montagne, et c'est un Pierre censuré, le même Pierre, qui accompagne le Seigneur s'en allant au ciel, montant ainsi une seconde fois sur la montagne de gloire, la sainte montagne de la Transfiguration. De quelle puissante consolation ces choses ne sont-elles pas remplies ? Nous avons devant nous Jésus, notre Seigneur,
le même hier et aujourd'hui et éternellement.
Le même pendant les jours de son ministère et après sa résurrection, le même dans les cieux où il est monté, le même pour toujours. et comme il reste le même, et se manifeste par la même grâce après comme avant sa résurrection, ainsi aussi il accomplit toutes les promesses qu'il avait faites à ses disciples. Que ce soit la voix de Jésus ou la voix de ses anges qui nous disent « ne crains point » Matthieu 14, verset 27, Marc 5, verset 36, Luc 5, verset 10, etc. Cette parole nous est adressée maintenant comme alors, après la résurrection de Jésus, comme avant la croix.
Matthieu 14, verset 27, « Mais Jésus leur parla aussitôt, disant, « Ayez bon courage, c'est moi, n'ayez point de peur. » Marc 5, verset 36, « Et Jésus, ayant entendu la parole qui avait été dite, dit aussitôt au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Luc 5, verset 10, « Et Jésus dit à Simon, « Ne crains pas, dorénavant tu prendras des hommes. »
Avant de mourir, Jésus avait parlé à ses disciples de leur donner sa paix, et après sa mort, nous voyons qu'il la leur donne en effet de la manière la plus formelle. Il leur dit
« Paix vous soit »
Jean 20, versets 20 à 26.
Et il leur dit « Paix vous soit ». Et ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Jésus leur dit encore « Paix vous soit ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ayant dit cela, il souffla en eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». À quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis, et à quiconque vous les retiendrez, ils sont retenus. Or Thomas, l'un des douze, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples donc lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « À moins que je ne voie en ses mains la marque des clous, et que je ne mette mon doigt dans la marque des clous, et que je ne mette ma main dans son côté, je ne le croirai point. » Et 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant fermées, et il se tint au milieu d'eux et dit « Paix vous soit ».
Et ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté, où ils pouvaient lire en traits symboliques quels étaient leurs droits à une paix accomplie et acquise pour eux par lui-même. C'était sa paix à lui absolument, car il l'avait faite lui-même. Et elle leur appartenait maintenant par un droit impérissable et imprescriptible. Dans d'autres jours, le Seigneur leur avait dit
« Parce que je vis, vous aussi vous vivrez » Jean 14, verset 19.
Et maintenant, au jour de sa résurrection, au jour de l'homme ressuscité en possession d'une vie victorieuse, il leur communique cette vie dans une pleine et parfaite mesure, soufflant en eux et leur disant «
Recevez l'Esprit Saint, Jean 20, verset 22.
Le monde ne devait plus le voir, comme il le leur avait dit, mais les siens le verraient, et il en a été ainsi. Il fut vu par ses disciples pendant 40 jours, et il les entretint des choses concernant le royaume de Dieu. Acte 1, verset 3. Mais tout se passa en secret, le monde ne l'a pas vu depuis l'heure du calvaire, et ne doit plus le voir jusqu'à ce qu'il vienne pour le jugement. Comme un témoin plus humble encore de son entière fidélité à toutes ses promesses, le Sauveur vint rencontrer les siens en Galilée, comme il le leur avait promis, et dans une expression plus complète de la même fidélité, il amène les disciples au Père dans le ciel, leur envoyant ce message
« Je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu, Jean 20, verset 17.
Ainsi, que ce soit dans notre Galilée sur la terre ou dans sa demeure dans le ciel, qu'il leur eut promis sa présence, il accomplit les deux promesses, et nous ne pouvons que tirer un grand profit à méditer sur l'humilité, la fidélité, la plénitude, la simplicité, la grandeur, l'élévation de tout ce qui forme et distingue le chemin du Seigneur devant nous. Le Seigneur, pendant qu'il exerçait son ministère au milieu de ses disciples, eut à s'occuper de Pierre plus que d'aucun des autres, et il en est de même après sa résurrection d'entre les morts. Pierre est celui qui occupe toute la place dans le dernier chapitre de l'Évangile de Jean. Le Seigneur y poursuit à son égard l'œuvre de grâce qu'il avait commencée avant de le quitter, et il la reprend au point même où il l'avait laissée. Pierre avait montré une grande confiance en lui-même.
Si tous étaient scandalisés en toi, moi je ne serai jamais scandalisé en toi,
avait-il dit, et
quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point.
Matthieu 26, versets 33 à 35. Le Seigneur lui avait dit combien de pareilles vanteries étaient vaines, mais il lui avait dit aussi qu'il avait prié pour lui, pour que sa foi ne défaillît point. Et lorsqu'il fut démontré que les vanteries avaient été vaines, en effet, et que Pierre eut renié son Seigneur, même avec blasphème, son Seigneur le regarda, et ce regard exerça son action bienfaisante. La prière et le regard produisirent leurs fruits. La prière avait préservé la foi de Pierre. Le regard brisa son cœur. Pierre pleura, et pleura amèrement. Luc 22, verset 62.
Et Pierre, étant sorti dehors, pleura amèrement.
Au commencement du chapitre 21 de Jean, nous retrouvons Pierre dans la condition morale où l'avait placé la prière et le regard de Jésus. La foi de Pierre n'avait pas failli. Il peut t'en donner une preuve bien douce, car aussitôt qu'il apprend que c'est le Seigneur qui est sur le rivage, il se jette à l'eau pour aller à lui, non point toutefois comme un homme pénitent, comme s'il n'avait pas déjà pleuré, mais comme un homme qui pouvait se présenter devant Jésus avec une pleine assurance de cœur. C'est sous ce caractère que son bienheureux Seigneur l'accueille, et ils mangent ensemble sur le bord du lac. La prière et le regard avaient fait leur œuvre dans le cœur de Pierre, et ne doivent pas se répéter. Le Seigneur poursuit simplement l'œuvre ainsi commencée, afin de l'amener à sa perfection, et en conséquence, la prière et le regard sont suivis par la parole. Après la conviction de péché et les larmes, vient le relèvement. Pierre est mis en position de fortifier ses frères, comme son Seigneur le lui avait annoncé, et aussi de glorifier Dieu par sa mort, privilège qu'il avait perdu par son incrédulité et son reniement. Telle fut la parole qui releva Pierre après que la prière eut soutenu sa foi et que le regard eut brisé son cœur. Au jour du chapitre 13 du même évangile, le Seigneur avait appris à ce même disciple bien-aimé qu'un homme qui a tout le corps lavé n'a pas besoin d'être lavé de nouveau, mais seulement de se laver les pieds. Et c'est dans ce sens précisément que Jésus agit envers Pierre. Il ne le fait pas passer une seconde fois par l'expérience du chapitre 5 de Luc, alors que la pêche miraculeuse l'avait accablé et qu'il s'était reconnu pécheur. Mais le Seigneur lave les pieds souillés de Pierre, il le restaure et le replace dans sa vraie position. Voyez Jean 21, versets 15 à 17.
Lors donc qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne font ceux-ci ? » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit encore une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Sois berger de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui disait pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui dit, « Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. »
Maître parfait, le même pour nous hier et aujourd'hui et éternellement, le même dans son amour parfait et plein de grâce, continuant l'œuvre qu'il avait commencée, reprenant auprès des siens, comme Seigneur ressuscité, le service qu'il avait laissé inachevé quand il fut séparé d'eux, et reprenant ce service au point même où il l'avait interrompu, rattachant ainsi le service passé au service présent, dans une grâce et une sagesse parfaite. Un peu plus loin encore, nous voyons comment le Seigneur accomplit ses promesses. Je veux parler de ce qu'il nomme la promesse du Père et la puissance d'en haut. Cette promesse fut donnée après sa résurrection, Luc 24, verset 49, et elle fut accomplie après que Jésus fut monté au ciel et qu'il eut été reçu dans la gloire. Actes chapitre 2.
Luc 24, verset 49. Et voici, moi j'envoie sur vous la promesse de mon Père. Mais vous demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance d'en haut.
Ceci n'est que la continuation de l'histoire et du témoignage de la fidélité de Jésus. Tout ce que nous apprenons de lui, sa vie avant qu'il souffrit, ses rapports avec ses disciples après qu'il fut ressuscité, et maintenant ce qu'il a fait depuis qu'il est monté au ciel, sont autant de preuves qu'il n'y a en lui aucune variation ni ombre de changement. Je ne voudrais pas passer sous silence une autre preuve de ce fait que nous trouvons dans le même chapitre de l'évangile de Luc. Le Seigneur ressuscité ramène ses disciples au point même où il les avait laissés lors de ses instructions précédentes, et il leur dit
« Ce sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fussent accomplis. »
Leur rappelant ainsi qu'il leur avait dit déjà auparavant que l'Écriture était le grand témoignage de la pensée de Dieu et que tout ce qui était écrit là devait être accompli ici. Et que fait le Seigneur alors? Il poursuit simplement et naturellement l'enseignement qu'il leur avait donné.
Alors il leur ouvrit l'intelligence pour entendre les Écritures.
Sa puissance s'unit à ses précédentes instructions, et il accomplit dans les siens ce qu'il leur avait déjà communiqué. La nature même et l'esprit de ses rapports avec ses disciples pendant ces 40 jours sont en un sens les mêmes qu'auparavant. Il les connaît par nom. Il se manifeste à eux de la même manière. Après, comme avant sa résurrection, nous le voyons à table comme un hôte, quoiqu'il ne se trouve là que comme convié, Jean chapitre 2 et Luc chapitre 24, et dans le sentiment profond et l'intelligence du moment, les disciples tiennent cette présence pour la même qu'elle avait été autrefois. En revenant vers Jésus à la fontaine de Sichar, ils craignent d'être importuns et se tiennent dans le silence. Pareillement, en l'abordant après la pêche de poissons, Jean 21, ils se taisent de nouveau, jugeant encore une fois d'après le caractère du moment qu'ils doivent user de peu de paroles, bien que leur cœur soit rempli d'étonnement et de joie. Qu'ils sont tendres et cependant puissants les liens qui unissent ainsi celui que nous avons déjà appris à connaître dans les détails ordinaires de la vie humaine à celui que nous connaîtrons pour toute l'éternité. Jésus descendit d'abord là où nous étions, pour nous introduire ensuite là où il est. Mais c'est ici où nous sommes que nous avons appris Christ, et que nous l'avons appris pour toujours. Cette vérité est d'un très grand prix. Pierre en est pour nous le témoin. J'ai déjà considéré cette scène à un autre point de vue, mais je désire m'y arrêter une seconde fois pour un instant. Ce fut à l'occasion de la pêche miraculeuse, ou avant la résurrection, que Pierre fut convaincu de péché. Pierre, le pêcheur de poissons, devint à ses propres yeux Pierre le pêcheur.
« Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pêcheur. » Luc 5, verset 8.
Le miracle de la pêche, qui prouvait que l'inconnu qui avait demandé à emprunter la barque était le seigneur de la mer et de tout ce qui est en elle, avait placé Pierre en esprit dans la présence de Dieu, et là il apprend à se connaître lui-même, car ce n'est que là, en effet, que nous pouvons apprendre cette leçon. Mais le Seigneur, à cet instant, comme du haut de la gloire, parle à Pierre pour le rassurer. Il lui dit « Ne crains point ». Et Pierre est sans crainte. La gloire ou la présence de Dieu, après avoir été un moyen de conviction, devient pour lui une demeure. Et Pierre est devant le Seigneur avec un cœur parfaitement tranquille. Aussi, lors de la seconde pêche, Jean chapitre 21, après la résurrection, Pierre jouit de la même assurance, et il n'a qu'à mettre en pratique la leçon qu'il avait déjà apprise, et c'est ce qu'il fait. Il fait l'expérience que la présence du Seigneur de gloire est une demeure pour lui. Il éprouve en lui-même et en rend témoignage pour nous que ce qu'il a appris concernant Jésus, il l'a appris pour toujours. Il n'avait pas reconnu l'étranger qui se tenait sur le rivage. Mais aussitôt que Jean lui eut dit que c'était le Seigneur, l'étranger n'est plus un inconnu pour Pierre, et il se hâte de s'approcher de lui le plus tôt et le plus près qu'il peut. Que ces choses sont douces pour le cœur. S'il y a de la joie à savoir que Jésus est toujours le même, dans notre monde à nous comme dans le sien, au milieu de notre misère comme dans sa gloire, quelle joie nouvelle de voir l'un de nous comme l'était Pierre, faisant l'expérience dans son âme du bonheur qui découle d'un pareil fait. Jésus est le même en vérité, fidèle et véritable. Tout ce qu'il avait promis à ses disciples avant de souffrir, il l'accomplit après sa résurrection. Tout ce qu'il avait été au milieu d'eux, il l'est encore.